programme va maintenant se poursuivre en français. Dobriden, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Vous le savez, comme chaque samedi, trois rubriques figurent au programme de la prochaine demi-heure. Il sera donc question de culture et de littérature. Et puis, comme tous les 15 jours, une place sera également réservée à votre courrier. Mais on commence donc avec la culture et du cinéma cette semaine. Le 14e festival du film sur les droits de l'homme, One World, bat en effet son plein actuellement. Parmi les invités, Petro Lom, réalisateur tchéco-canadien dont le film Back to the Square a inauguré le festival mardi dernier. Petro Lom fait également partie cette année du jury principal. Ce n'est pas la première fois qu'il présente ses films au festival. Venu du monde universitaire, Petro Lom a changé de voie il y a quelques années afin de se consacrer au documentaire. Anna Kubishta l'a rencontré.
Culture sans frontières.
Petro Lom, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici en tant que membre du jury au festival Jeden Świat, mais également vous présentez un film. C'est pas la première fois d'ailleurs que vous présentez un film au festival One World en anglais. Ce film s'appelle Back to the Square. Dans ce film, vous revenez en fait sur les événements de la place Tahrir en Égypte. Donc vous venez un petit peu après que les feux médiatiques se soient éteints sur l'Égypte. Qu'est-ce qui vous a surpris justement en arrivant là-bas?
Beaucoup de choses. En fait, je suis arrivé en Égypte le 1er février, ce que c'était 10 jours avant departure de Moubarak, le départ. Je suis venu en Égypte pour suivre Mohamed El Baradei. When I got there, j'ai changé le fil du film pour me concentrer sur des gens ordinaires, en fait. Et ce qui m'a surpris surtout, c'était en fait le courage des jeunes égyptiennes, oui. Qui se battent toujours un an après la révolution.
Justement, par exemple, il y a un passage où vous filmez une jeune fille qui a été accusée de prostitution, qui vit dans un petit village, etc. Ouais. Et visiblement, votre présence a causé des problèmes. Est-ce que justement, ça arrive souvent pendant des tournages que vous soyez confrontés?
Oui, on a beaucoup de problèmes de tourner en Égypte. Malheureusement, le pays souffre beaucoup de xénophobie qui est toujours une chose créée par le gouvernement pour justifier la répression et pour créer un ennemi. Que ce sont tous les étrangers qui causent des problèmes en Égypte. Alors c'est difficile de tourner là-bas. Oui, oui, bien sûr. Et dans le village avec Salwa, le problème est venu parce que on est venu deux hommes, moi et mon assistant, pour faire une entrevue dans une famille qui était une famille seulement des femmes. Alors c'est pas bien vu par les gens dans le village qui ont pensé aussi que j'étais un espion. C'était en mois de juin quand un espion israélien était arrêté. Alors après ça, beaucoup de gens pensaient que n'importe quel journaliste était un espion.
Justement, vous parlez de ce rapport, le fait que vous soyez un homme, que ça pose des problèmes. Mm-hmm. Quand vous avez tourné il y a quelques années au Kyrgyzstan, vous avez tourné sur les femmes, les fiancées qui étaient enlevées. Uh-huh. Est-ce que justement là, le fait que vous soyez un homme, ça n'a pas été un problème?
Non, en Kyrgyzstan, c'était complètement différent parce que la culture là était beaucoup plus ouverte aux étrangers. Et même dans l'Asie centrale, on a un sens de hospitalité ou un accueillement des étrangers. Alors là, par exemple, j'étais toujours logé chez tous les gens qui j'ai filmé. Alors j'ai accepté par la famille immédiatement. C'était beaucoup plus facile que de travailler en Égypte, oui.
Alors justement, ce sujet, sur ces fiancés enlevés par leur futur mari, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sujet?
À ce sujet, en cette période, j'étais un prof de philosophie dans une université en Budapest établie par George Soros, qui c'était pour tout le monde post-soviétique. Alors j'ai eu beaucoup d'occasions pour voyager en toute l'Asie centrale. Et j'ai passé quelques mois en Kyrgyzstan en faisant la recherche sur, en fait, un autre sujet, c'était en fait sur l'extrémisme musulman qui n'existait pas du tout en Kyrgyzstan. Alors toujours quand j'ai attendu de faire les entrevues avec quelques entre guillemets extrémistes qui n'étaient pas du tout extrémistes, j'ai passé du temps à bavarder avec des gens dans leur cuisine et on parlait toujours, on se pose des questions, alors comment vous avez rencontré votre mari? Et puis, tellement souvent, j'avais la réponse, oui, j'étais enlevé par mon mari. Alors, j'ai tombé dans le sujet un peu comme ça. Et c'était aussi, j'étais étonné que c'était un sujet qui n'était pas du tout reporté dans les médias, même par les organisations qui travaillent sur les droits de l'homme, droits des femmes.
C'est une pratique ouais. Encore courante, alors?
Oui, très courant, toujours. Ils m'ont dit que dans cette période que ça fait 8 ans, que c'est à peu près 40% des femmes qui vivent hors du capital sont enlevées pour le mariage. Oui. Ouais.
Et comment justement vivent-elles cet enlèvement?
C'est compliqué. mais ce sont des enlèvements vrais. C'est une coutume que l'homme, dès qu'il décide de se marier, il enlève la fille, parce que pour se marier en Kyrgyzstan, il faut payer la famille de l'épouse. Mais si tu enlèves la fille, tu payes beaucoup moins. C'est moins cher de se marier. Alors c'est surtout pour des raisons économiques.
Justement, vous disiez ouais. que vous enseignez à Budapest, vous avez ouais. enseigné également sur le continent américain. Vous venez du monde universitaire, mais comment est-ce que vous êtes arrivé au documentaire? Est-ce que c'était une envie de voir le monde autrement que parce que vous voyiez, par exemple, à la télévision ou au cinéma?
Non, c'était surtout pour des raisons personnelles que je me sentais pas complètement réalisé dans l'université. J'étais trop dans la bibliothèque, en fait. Je voulais faire quelque chose de plus engagé dans le monde vrai et aussi quelque chose de plus créatif. Alors, je me sens beaucoup plus dans ma peau maintenant.
Comment prépare-t-on justement des documentaires tels que ceux que vous tournez? Parce que vous êtes quand même allé donc au Kyrgyzstan, vous êtes allé en Iran également, en Égypte, c'est des pays dont on pourrait dire, en tout cas pour ce qui est de l'Iran et l'Égypte, que c'est pas forcément extrêmement facile. La preuve, c'est que vous pouvez rencontrer des problèmes. Comment prépare-t-on un document comme celui-ci?
En fait, on prépare rien. En général, on part et après on voit. Mais pour faire un film, il faut avoir surtout du temps. Parce qu'il faut, pour suivre des personnages et pour vraiment avoir leur confiance, ça prend du temps.
Vous n'êtes pas seulement réalisateur, mais vous êtes aussi producteur, vous montez vos films. Ouais. Justement, c'était quelque chose que vous vouliez, avoir le contrôle sur tout le film.
Oui, je suis aussi le caméraman. Non, je suis un peu control freak, bien sûr. Mais surtout, c'est juste que mon envie d'être indépendant, de ne pas... dès que je décide de commencer, il faut commencer par exemple pour une révolution, on peut pas attendre les financements, écrire des proposals, tout ça, il faut partir. Alors ça maintenant a devenu un métier, je pense, où c'est mieux de maîtriser tous les varies tâches. Oui, ça rend des choses plus faciles.
Qu'est-ce que selon vous un bon film sur les droits de l'homme et un bon film indépendant?
Un bon film sur les droits de l'homme, le risque, et en fait, quelquefois, dès que je suis dans un festival sur les droits de l'homme, quelquefois, on rencontre des films qui sont un peu trop dogmatiques, un peu trop, en fait, aussi pédagogiques, qui oublient que la forme est la chose, en fait, la plus importante dans un film pour créer un film qui a le but d'attendre en fait un œuvre d'art, pas de faire seulement le reportage, mais vraiment de créer un film, créer des histoires et suivre des personnages et suivre aussi les situations qui sont intéressantes et surtout, on espère, poétiques. Pour moi, ça, c'est un important film. Et un film indépendant aussi, c'est un film qui n'insulte pas le public, surtout leur intelligence.
Vous êtes d'origine tchèque, mais vous avez grandi au Canada. Est-ce que le fait d'être d'une double culture, peut-être, cela apporte quelque chose à votre travail ou pas du tout?
Non, ça aide, je crois, parce que j'ai eu la chance d'avoir plus qu'une perspective. Je ne sais pas, peut-être ça l'aide aussi. C'est le fait que je suis né dans 68 jusqu'avant l'invasion russe en Tchécoslovaquie. Ma famille a été touchée par l'injustice, comme toute cette génération de 68. Alors peut-être c'est pour ça que je me concentre sur des pareils sujets.
Là, justement, dans le cadre du festival, vous êtes membre du jury. Uh-huh. Quels sont un peu vos critères de jugement pour les films?
Non, c'est toujours un peu, je ne sais pas, subjectif, mais aussi un peu du goût, non? Mais on cherche des films qui vous inspirent. En fait, peut-être surtout, on cherche un film qu'on a rêvé de faire soi-même. Ouais.
Et on les trouve parfois?
Parfois, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est un plaisir d'être dans un jury, de trouver des films qui vraiment te nourrissent, qui nourrissent ta âme pour continuer ce métier. Vraiment inspiré, oui. J'espère toujours de trouver des films qui te restent dedans. Oui.
Une dernière question. Ouais. Vous allez repartir sur les routes, là. Est-ce que vous avez un projet de film?
Oui, en fait, avec ma copine qui a passé toute l'année avec moi en Égypte, on est maintenant en train de monter un deuxième film sur Égypte qui sera sur cinq jeunes femmes artistes en Égypte pour montrer comment leur identité change après les 2 ans après la révolution.
On passe maintenant à une rubrique que vous appréciez tout particulièrement une fois toutes les 2 semaines et nous avons en effet le plaisir, chers auditeurs, de nous rencontrer autour de votre courrier. Et comme à chaque fois, c'est d'abord de vos réactions à nos émissions dont nous nous réjouissons plus particulièrement. Cette semaine, c'est Alena Gebertova qui s'est chargée du tri de ce courrier.
Courrier des auditeurs.
C'est avec notre très fidèle auditeur Philippe Aubry qu'il nous a envoyé un court résumé du programme diffusé, accompagné d'un commentaire que nous allons commencer. Il a réagi notamment à l'interview réalisée par Anna Kobeshta avec le peintre tchèque Miloš Sikora, établi depuis plus d'une vingtaine d'années à Paris et qui a été diffusée sur nos ondes le 3 mars dernier. Il nous a écrit.
Un sud-bohémien, né en 1945 et peintre de métier, expose en ce moment à Paris où notre amie Anna l'a rencontré dans le cadre de ce programme culturel sans frontières. Tout le monde garde un souvenir du printemps de Prague en 1968. J'avais 11 ans à l'époque et j'étais trop loin pour apprécier. Seulement que notre peintre du jour s'est exilé pour Paris. Toutefois, on dit souvent que les difficultés sont bonnes pour accélérer la vie. Ainsi, l'homme est partagé entre son pays d'origine et son état d'adoption.
Le printemps de Prague demeure en effet un événement qui a marqué non seulement toute une génération de Tchèques qui en gardent un souvenir ineffaçable, mais qui a eu également un grand retentissement international. Comme on le sait, les espoirs, l'euphorie et le souffle de liberté de cette période ont été brutalement étouffés par les chars soviétiques en août 1968. L'occupation de la Tchécoslovaquie et la grisaille des années de normalisation qui ont suivi cette agression ont provoqué une vague de départ du pays. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été dès lors contraints de vivre une vie consistant, comme le remarque notre auditeur Philippe Aubry, à être partagé entre son pays d'origine et son état d'adoption. Cette condition a d'ailleurs été merveilleusement saisie dans le roman « L'ignorance » de Milan Kundera, l'écrivain d'origine tchèque établi depuis 1975 en France, qui parle du retour impossible dans son pays d'origine. René Durand d'Orvault en France, qui nous remercie dans sa dernière missive pour nos émissions, a apprécié de son côté l'entretien avec l'ambassadeur de la République tchèque à Paris, Madame Marie Chatardova, qui a été diffusé mardi. Celui-ci a été retenu également par un autre auditeur français, Christian Guibaudot. Ce dernier vient de nous adresser encore une autre lettre dans laquelle il s'interroge sur la situation des Tchèques de langue allemande, une question à laquelle nous répondrons dans notre prochain courrier des auditeurs. Didier Vasseur d'Amiens a lui écouté l'émission du 4 mars, qu'il a trouvée très bonne. Maurice Sion de Reims a suivi l'émission consacrée au retour projeté des cendres du peintre tchèque František Kupka dans le pays. Dans sa lettre, nous avons pu lire.
J'apprécie toujours les interventions de Václav Richter dans vos programmes, notamment avec les rencontres littéraires. J'essaie de vous rester fidèle en passant un peu de temps chaque jour à parcourir le site de Radio Prague, faute de tout écouter.
Et voici l'extrait d'une lettre prouvant une fois de plus que nos auditeurs ne se recrutent pas uniquement dans les pays francophones.
Je suis Stefano Citerio. J'avais écrit plusieurs fois à votre rédaction, même si pour des raisons de santé, depuis longtemps, je ne l'ai pas fait. Merci pour vos programmes, qu'en tant que tchécophile et ami de la République tchèque, j'écoute régulièrement. Je vous écris pour ça. Dans 20 jours, je parlerai auprès de l'association Italie-Russie du monde des radios, surtout pendant la guerre froide, et j'ai l'intention de parler naturellement aussi de Radio Prague, hier et aujourd'hui.
Puisque la rédaction italienne n'existe plus, Stefano Citerio nous demande si quelque chose a été conservé dans les archives de Radio Prague. En effet, de telles archives existent, mais notamment pour des besoins internes, faute de quoi un certain temps est nécessaire pour s'arranger.
Merci de m'avoir fait découvrir un musicien baroque que je ne connaissais pas. Ce dimanche musical est vraiment une très belle émission.
C'est ce que nous avons pu lire dans la lettre de Monsieur Hervé Brien, lettre dans laquelle il revenait sur l'une de nos dernières émissions musicales consacrée au compositeur tchèque Jan Dismas Zelenka de l'époque baroque. Un compositeur dont la popularité de 167 ans après son décès ne cesse de grandir à l'échelle internationale. Plus loin, notre auditeur français de la ville de Talence a remarqué.
Beaucoup d'activités ces derniers temps ne m'ont pas permis d'être présent à votre écoute, mais je reste néanmoins toujours en contact par le biais de votre lettre quotidienne et la lecture de quelques-uns de vos articles, dont celui parlant de la corruption. En effet, si la corruption est une gangrène qui affecte tous les pays, et je dis bien tous les pays, nous ne sommes pas nous non plus épargnés, et qui a les effets les plus néfastes sur la vie économique et politique de tous les pays. Peu de commentaires sur votre actualité, la nôtre étant bien occupée en ce moment par la campagne pour les élections présidentielles.
À noter que cette campagne est assez étroitement suivie aussi en Tchéquie et que les médias tchèques apportent régulièrement d'amples informations sur tout ce qui a trait à la prochaine élection présidentielle en France. Un intérêt accentué par le fait qu'au début de l'année 2013, les Tchèques, eux aussi, auront pour la première fois l'occasion d'élire leur président au suffrage universel direct. Merci donc à vous tous, chers auditeurs, que nous avons eu le plaisir de citer dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez envoyé vos rapports d'écoute, parmi lesquels je ne voudrais pas omettre Paul Jamais d'Argenteuil. Merci à vous tous qui nous écoutez ou qui nous lisez sur Internet. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à participer à notre concours régulier et à vous rappeler la question du mois de mars qui est la suivante.
En février, un célèbre réalisateur tchèque vivant aux États-Unis a fêté ses 80 ans. Parmi les films à succès qu'il a tournés en Tchécoslovaquie avant 1968, figurent par exemple Au feu les pompiers, L'as de pique ou encore Les amours d'une blonde. Il a été récompensé de 2 Oscars pour Vol au-dessus d'un nid de coucou et Amadeus.
Écrivez-nous le nom de ce célèbre réalisateur d'ici au 31 mars.
Parmi les personnalités de la littérature tchèque de la lisière de la fin du 19e et du début du 20e siècle se détache le romancier et dramaturge Vilém Mrštík, un auteur dont le nom apparaît encore aujourd'hui dans le répertoire des théâtres tchèques. Plus de détails sur ce romancier dans la rubrique littéraire préparée pour vous, comme toujours, par Václav Richter.
Rencontre littéraire. Les pièces du 19e siècle ne figurent que rarement dans le répertoire des théâtres tchèques actuels. Il n'y a qu'une seule exception, le drame Mariša, écrit par les frères Willem et Alois Mrštík, histoire tragique inspirée par la vie d'une femme réelle qui ne cesse d'attirer des directeurs de théâtre, des metteurs en scène et le public. Chaque nouvelle génération trouve dans ce drame une nouvelle matière à réfléchir, une nouvelle inspiration. La pièce reste vivante bien que son auteur Willem Mrštík soit mort le 2 mars 1912, donc il y a juste un siècle. C'est la vie dans la campagne morave qui a été la principale source d'inspiration de Willem Mrštík et de son frère Alois. Willem est né en 1863 dans le village de Jimramov sur le plateau tchéco-morave. Fils d'un cordonnier, il étudie dans des lycées de Brno et de Prague, puis se lance dans des études de droit qu'il n'achèvera pas parce qu'il est beaucoup plus attiré par la littérature. Après quelques années passées à Prague, il revient en Moravie et s'installe dans la maison de son frère Alois dans le village de Diváky. La collaboration entre les frères Mrštík donnera à la littérature tchèque deux chefs-d'œuvre, le drame rural Mariša et une vaste chronique de la vie campagnarde intitulée « Une année au village ». Le professeur de la faculté du théâtre de l'Académie des arts de Prague, Jan Cisař, réserve à Willem Mrštík une place importante dans l'histoire de la littérature tchèque.
Mrštík est un auteur na řekněme, rozcestí.
Mrštík est un auteur au carrefour des époques, d'une période où finissait une étape et commençait une étape nouvelle et dans laquelle le modernisme commençait à se substituer au réalisme. Nous trouvons tout cela dans l'œuvre de Willem Mrštík et cela se reflète d'une certaine façon jusqu'à nos jours dans la place qu'occupe son œuvre dans la littérature et dans le théâtre tchèque.
C'est en 1994 que le Théâtre national de Prague présente la première de Mariša, drame dont le succès ne se démentira plus. Mariša, jeune femme obligée par son père de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas, deviendra l'un des personnages féminins les plus populaires de l'histoire du théâtre tchèque. Et Jan Cisař constate qu'elle est loin d'être oubliée même au seuil du XXIe siècle.
Mariša.
Mariša est jusqu'à aujourd'hui la pièce dramatique tchèque la plus actuelle de la période du 19e siècle. Elle est si actuelle que les jeunes d'aujourd'hui et aussi les jeunes amateurs de théâtre avec lesquels j'entretiens de fréquents contacts y reviennent toujours et ils trouvent sans cesse des questions et des problèmes qui les concernent très étroitement et très organiquement.
L'action de la pièce est située dans un village morave. Mariša, fille d'un riche fermier, est amoureuse d'un garçon pauvre, Francek. Son père décide cependant que Mariša doit épouser un riche meunier, Vavra, qui est veuf et père de 3 enfants. Mariša refuse de se marier avec cet homme brutal, ose désobéir à toute sa famille qui l'oblige à accepter ce mariage de raison, mais ses capacités de résistance ne sont pas inépuisables et elle finit par se soumettre. Elle épouse Vavra et comme il fallait s'y attendre, c'est un mariage malheureux qui finira en tragédie. Lorsque le premier prétendant Francek revient de l'armée et cherche à renouer sa liaison avec Mariša, Vavra, pris d'un accès de jalousie, menace de le fusiller et Mariša, au bord du désespoir, empoisonne son mari. Jan Cisař décèle dans cette tragédie rurale toute une série de thèmes intemporels.
Il s'agit notamment de la seconde moitié de la pièce, qui pose le problème du choix de la vie dans la dignité. Mariša est contrainte de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas et de quitter l'homme qu'elle aime. Dans la seconde moitié du drame est posée la question existentielle de la liberté de choix. Mariša doit décider comment elle continuera à vivre, comment elle affrontera la situation dans laquelle elle se trouve à cause de la pression de son milieu et des conventions de la société. Elle doit trouver une solution et nous savons combien la solution qu'elle choisira sera tragique. Alors, ce sont ces questions existentielles de la liberté du choix dans les décisions sur la destinée humaine qui reviennent toujours.
Bien que Mariša reste une partie vivante du répertoire de théâtre tchèque au cours de ces dernières décennies, elle est quelque peu éclipsée par des adaptations pour la scène d'un roman des mêmes auteurs, Une année au village, célèbre chronique de la vie campagnarde que Wilhelm Mrštík a écrite avec son frère Alois. Une de ces adaptations a été écrite et réalisée pour le théâtre de la ville de České Budějovice par le metteur en scène Břetislav Rychlík. Voilà comment il explique les motifs qui l'ont poussé à réaliser ce projet.
La vie dans ce roman est très complexe. Il y a des éléments tragiques et grotesques, de l'ironie et de la tendresse. Il y a évidemment aussi des aspects tragiques qui font partie de la vie, mais je ne mets l'accent sur rien. Un jour, vous avez du chagrin et le lendemain, vous avez de la joie. Un jour, vous êtes plein de bonheur qui tourne le lendemain en désespoir profond. C'est bien de présenter les choses de cette façon, les unes à côté des autres.
La vie du village est un enchevêtrement de destinées humaines soumis à la cadence des saisons et des fêtes religieuses. Les auteurs ont mis dans ce roman de 9 tomes une multitude de petites histoires, souvent drôles et amusantes, sans idéaliser la vie à la campagne. Les héros de cette épopée villageoise sont tantôt comiques, tantôt tragiques, parfois sages et courageux, parfois sots et déplorables. Le roman devient ainsi un vaste témoignage sur la nature humaine. Břetislav Rychlík souligne encore d'autres aspects de cette œuvre.
La vie dans la campagne morave, comme dans la campagne tchèque, est rythmée par une série de coutumes, mais ce n'est pas le thème principal. Les villageois vivent la Toussaint, le carnaval, le départ des jeunes recrues, tout cela se trouve dans le livre, mais comme il arrive dans un bon drame, les choses tournent souvent en leur contraire. Ce qui doit rendre les villageois heureux ne leur apporte que du malheur, là où ils doivent montrer du courage, ils se couvrent de ridicule. Tout cela se trouve dans ce roman rythmé par les coutumes de l'année, cela ne finit jamais comme tout le monde le souhaite, et c'est ce qui est bon et précieux dans la vie.
Mariša et Une année au village font oublier aujourd'hui d'autres œuvres de Wilhelm Mrštík. Il est l'auteur de plusieurs romans, contes et récits de voyage. Son roman impressionniste Conte de mai, histoire d'un jeune amour sur le fond de la campagne printanière, a été jadis très célèbre et porté avec grand succès à l'écran. Romancier influencé par le naturalisme, notamment l'œuvre de Zola, Wilhelm Mrštík a été également traducteur de grands auteurs français et russes, un profond critique littéraire. Sa vie a été assombrie par des problèmes psychiques et des accès de désespoir et de mélancolie qui l'ont poussé le 2 mars 1912 à mettre fin à ses jours. Son départ prématuré a été une grande perte pour la littérature tchèque. Certaines des œuvres qu'il a laissées restent étonnamment vivantes encore aujourd'hui. Le professeur Jan Cisach évoque le caractère hypersensible de cet artiste qui s'est reflété dans son œuvre et qui en font en quelque sorte homme de notre temps.
Mrštík, comme nous le savons, était d'un tempérament agité et névrotique, une nature assaillie par une multitude de questions qui sont toujours d'actualité. Dans toute son œuvre, y compris son œuvre prosaïque, reviennent toujours les questions que se pose un homme sensible qui comprend pleinement son époque, qui cherche à prendre position vis-à-vis d'elle et qui est aussi une grande individualité artistique. Toutes ces questions sont omniprésentes et surgissent également aujourd'hui sous les formes les plus diverses. Voilà, et c'est ainsi que s'achève pour cette fois le programme proposé et présenté par la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague. Ahoy.
Radio Praga continua.